Bien, merci d'être venu dans cet après-midi. Pour les nouveaux, les anciens, on a un peu essayé d'évoquer dans la première partie de ce colloque les questions liées à la pensée et à l'écriture de cette Afrique noire d'aujourd'hui. On a eu plusieurs tendances, plusieurs définitions, peut-être même plusieurs lectures de l'écriture, de l'économie, de la philosophie, de la condition même de la femme en Occident, voire même de la découverte ou de la redécouverte de certaines généalogies étonnantes. Et je pense que les écrivains, les philosophes et les artistes ont donné la tonalité que nous allons continuer maintenant avec ce troisième panel que nous avons intitulé « Écrire la France noire, la question, la diversité en question ». Alors, je n'avais pas trouvé meilleure introduction que de reprendre ce que nous avons dit dans un grand ouvrage coordonné par Pascal Blanchard, qu'on avait intitulé « La France noire », qui est un des livres qui avait fait date aussi à la matière et qui reste une sorte de bible aussi sur la question, puisque les contributeurs nombreux, certains sont ici, ont donné à ce livre un caractère incontournable. Dans cette préface, ou dans ce livre, nous disions que aujourd'hui comme hier, la définition des Africains et des Antillais comme noirs est l'expression d'un regard singulier, d'une construction spécifique, interne et externe, tantôt saillante, tantôt absente, qui est loin d'épuiser le répertoire des identifications qui traversent ces populations et leurs environnements, notamment dans les quartiers. Le regard, poursuit-on dans France Noire, le regard par le prisme de la couleur noire, encore esquivé par les pouvoirs publics, par de nombreux chercheurs et travaux académiques, par bien des Afro-Antillais, est à contrario plus banalisé par les historiens. C'est pour ça que nous en avons invité. Les milieux de la culture, des arts, du spectacle ont aussi largement participé à la promotion d'une esthétique valorisant et mettant en scène et en récit des œuvres et créateurs du monde noir. C'est donc à la croisée de plusieurs types de subjectivation adossées en fonction des groupes, des périodes et suivant des modalités complexes sur le registre de l'origine africain, de la couleur noire, du statut politique colonisé, citoyen des nations indépendantes, de l'ethnico-culturel et religieux que la présence afro-antillaise s'est déclinée en figure générique. Les soldats noirs, les OS, travailleurs immigrés de l'industrie et des services, les étudiants, les intellectuels, les artistes, musiciens ou sportifs, prolongés par celle des femmes africaines et mères et par celle des jeunes blacks ou renois, comme on dit, nés en France. C'est dans cette dynamique que cet ouvrage, donc, la France noire, a été conçu pour raconter tout simplement l'histoire d'une présence en France datant de plus de 3 siècles. Génération après génération, comment expliquer la contradiction entre l'héritage intellectuel d'une pensée anti-noire et l'attitude tolérante à l'encontre des Noirs résidant en France? La raison est peut-être à chercher dans l'absence de lien obligatoire entre pratiques politiques ou administratives, discours scientifiques et attitudes sociales. C'est cela que raconte justement cette longue histoire des Noirs de France, ainsi que les effets de cette contradiction sur la construction des identités noires, en quête de place dans la société française. Comment les Noirs en France voient et pensent la France à cette époque? Quelles stratégies intellectuelles, politiques, artistiques et culturelles adoptent-ils au cours de ces années, en fonction de leur pays d'origine, des époques, de leurs identités chromatiques ou de leur domaine d'activité? Parfois élus, militants politiques, artistes, sportifs, etc., sont autant de questions qui étaient posées dans ce livre-là, mais qui reviendront ici, puisque j'ai la chance, le bonheur, d'avoir réussi à les rassembler ici. Donc Pascal Blanchard, Rokhaya Diallo, Pape Ndiaye et François Durpère. Je commencerai évidemment par Pascal Blanchard parce que la question qu'avait soulevée, par exemple, tout à l'heure, Gauze, semble très intéressante, la question historique. C'est pour ça que je trouve que la présentation qu'il va faire sur la France noire au regard de l'histoire de France est importante. Pascal Blanchard, bon, il est là, c'est un historien-chercheur au laboratoire communication et politique, Université Paris-Dauphine, auteur, réalisateur, commissaire d'exposition. Il a fait notamment au musée du Quai Branly en 2012, exhibition, l'invention du sauvage. Il est un des spécialistes français de la question coloniale, postcoloniale aussi, de l'histoire des diasporas en France et des OIMA. Parmi les principaux ouvrages qu'il a publiés, on peut notamment signaler en langue française, puisqu'il y a des traductions, « Culture coloniale en France » en 2008, « La République coloniale » en 2006, « La fracture coloniale » en 2005, qui a inspiré beaucoup de présidents, « De l'indigène à l'immigré » en 2008, « La France noire » que j'avais eu le privilège de préfacer en 2011, avec en 2012 les trois films qu'il a pu aussi réaliser, « Noir de France » qui est passé sur France 5, et il est l'auteur, avec Rachid Bouchareff, des séries télévisées, notamment « Frères d'armes » 2014 et « Champion de France » 2015, diffusées sur les chaînes de France Télévisions. Il vient de publier « Le Grand Repli » en octobre 2015 et « Vers la guerre des identités » qui n'est pas encore sorti. Ah tiens, il est là, voilà, il est pratique, voilà. « Vers la guerre des identités » qui est tout chaud, qui vient de sortir. Son intervention, donc, aujourd'hui, s'intitule « La France noire au regard de l'histoire », Pascal Blanchard.
Bonjour. D'abord, c'est un grand plaisir d'être ici, et parce que c'est un grand moment d'histoire. Et quand on écrit l'histoire de la France noire, si on doit un jour faire une réédition, ben, ce moment sera parmi les moments de l'histoire de la France noire. Tout simplement parce qu'écrire l'histoire, c'est regarder des moments qui sont saillants, qui sont majeurs, qui s'inscrivent à un moment dans les imaginaires collectifs ou dans les rapports d'une société à une présence, à un rapport à l'enfoui, à l'invisible, au visible. Et ici, c'est un moment qui est visible, qui est très visible, et ça, on le doit à Alain. On le doit aussi à tous ceux qui y participent depuis ce matin, mais aussi à ceux qui sont venus faire plusieurs cours et conférences. Et c'est important parce que, justement, on va parler de l'invisible. C'est étonnant comment les minorités dites visibles sont généralement, dans le domaine de l'histoire, invisibles. Et l'histoire de la France noire, c'est d'abord l'histoire d'écrire sur l'invisible qui est trop visible et qu'on ne veut pas voir visible. Ça n'a pas été simple, quand j'ai dit ça à Alain, pour faire sa préface. Rigole pas, Rocaille, parce que ce n'était pas plus facile pour toi quand tu étais dans le film, quand on t'a interrogé. On est d'accord ? Et ni Pab qui ne rigole pas, mais qui était aussi et dans le livre et dans le film. C'est parce que c'est une histoire compliquée. Non pas pour, en tant que tel, un historien de la raconter. Elle est simplement compliquée dans un pays qui pense qu'il n'a pas d'histoire de ceux qui sont dits noirs et qui vivent dans ce pays. À l'aune des années 90, Achille Mbembe parlera tout à l'heure, et nous étions des jeunes chercheurs, Achille, rappelle-toi, à ce moment-là, et nous travaillions et nous œuvrions à déconstruire les imaginaires coloniaux. Si on avait osé dire qu'à l'époque, dans un livre, la France aurait pu être noire, je pense qu'on aurait été brûlés au bûcher de l'histoire. Tu n'aurais jamais été un universitaire en France, tu n'aurais été juste peut-être aux États-Unis ou en Afrique du Sud, Nicolas Bancel ne serait pas à Lausanne, et toutes ces générations de chercheurs enseigneraient aujourd'hui tranquillement en France, ce qui n'est bien sûr pas le cas. D'ailleurs, Alain a traversé l'Atlantique pour être ici. Ce qui prouve bien qu'il faut travailler de loin pour parler d'ici. Et nous, on venait donc de très loin pour parler de cela. Et c'était les années 90. Depuis le temps, l'eau a coulé sur les ponts et l'homme africain est rentré dans l'histoire. Et oui. Et oui. Ça fait aussi partie de l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, quand on s'est intéressé à ces questions, nous, on venait d'un monde assez particulier, puisqu'on était africaniste. C'est une maladie assez étrange à l'intérieur de l'université qui s'intéresse à l'Afrique. Autant vous dire qu'on a des laboratoires particuliers, dans un coin particulier, au bout d'un couloir particulier et des budgets plutôt particuliers. C'est ce que j'ai compris très très vite quand j'ai rejoint le laboratoire, le centre de recherche africaine à la Sorbonne, qui n'était bien sûr pas à la Sorbonne mais rue Malherbe, et il a fallu travailler et œuvrer. Et on a tout de suite compris que notre histoire n'était pas véritablement l'histoire qui était au cœur de l'histoire. on était un peu à la marge. En même temps, c'était l'histoire africaine, donc on va se dire, mais en quoi l'histoire africaine devrait être au cœur de l'histoire sorbonnarde française et de la grande histoire de France ? Ben, il y a un petit truc qui s'est passé, ça s'appelle l'histoire de l'esclavage. Il y a un autre truc qui s'est passé, c'est l'histoire coloniale. Et puis il y a un troisième truc qui s'est passé, c'est l'histoire de l'immigration dans ce pays de gens qui ont eu l'idée un peu curieuse de partir migrer dans le pays de ceux qui les avaient colonisés. Autant dire que tout ça est étonnant pour un historien. Qu'est-ce qu'on a été faire au-delà des mers ? Qu'est-ce qu'on a été faire dans ces îles ? Et qu'est-ce que ces gens à qui on a été perturbé leur vie ont eu envie de venir vivre dans notre pays ? Tout ça a donné une histoire qui était étonnante parce qu'elle était à la marge. Et d'ailleurs, elle n'était pas à la marge parce que l'Afrique était invisible. L'Afrique, dans les années 90, était visible. Elle nous parlait d'une Afrique coloniale, on en parlait encore beaucoup, mais surtout, on nous parlait d'une Afrique qui souffrait, une Afrique en guerre, une Afrique de la maladie. Donc c'était une Afrique qui était visible, mais qui était visible uniquement à travers ce prisme-là. En fait, on ne voyait pas l'Afrique d'ici, on ne voyait pas les Antilles d'ici, on ne voyait pas la Réunion d'ici, on ne voyait pas les Comores d'ici, comme si, en fait, ceux qui étaient là et qui étaient normalement très visibles étaient devenus totalement invisibles dans nos rues. On va dire qu'ils n'étaient pas très nombreux et que quand on écrivait l'histoire de l'immigration, ils étaient, en fait, encore invisibles, même dans cette histoire-là, ils avaient véritablement pas de chance. Pourtant, ils avaient eu des ancêtres gaulois, ils parlaient français, ils connaissaient l'histoire de France pour certains depuis 3 siècles et demi, ils l'avaient même largement subi, et donc pourtant, ils n'étaient pas écrits dans cette grande page d'histoire. C'est un peu l'idée du thème de ma communication, c'est comment inscrire cette histoire dans l'histoire de France, et de suivre le cheminement qui, en fait, de 91 à 2011, nous a emmené à écrire cet ouvrage. Alors, je ne vais pas me faire le malin plaisir de montrer la couverture et le dos de couverture. Donc je recommence, la couverture et le dos de couverture. Car c'est une histoire qui s'écrit aussi bien à l'aune de l'histoire coloniale et militaire qu'à l'aune d'une histoire de fascination, de répulsion, de peur, d'angoisse, de passion partagée, de violence, mais pas que de la violence, de littérature, on en a beaucoup parlé ici, d'art, Joséphine Baker, mais aussi d'une violence incroyable avec les os humains. Toute cette histoire-là, elle fait une histoire globale et cohérente. Et la première fois qu'on l'a abordée d'une manière concrète, c'était en 2001, à travers un ouvrage qui s'appelait « Le Paris noir ». Je me rappellerai toujours cet éditeur, pourtant très courageux au final, qui s'appelait Azan, quand on a prononcé cette phrase assez étonnante avec Éric Deroux et Gilles Manceron, « On veut faire un beau livre sur l'immigration des Noirs en France ». Je recommence. On veut faire un beau livre sur l'histoire de l'immigration des Noirs en France. Alors déjà, le deuxième sujet ne passionnait pas beaucoup, l'histoire de l'immigration des Noirs en France, mais alors le premier a fait rire l'éditeur. Un beau livre. Pourquoi faire un beau livre sur l'immigration ? Et en plus, des Noirs. Et en plus, en France. Ça n'a pas été facile à le convaincre, mais il a été convaincu. Ce qui aujourd'hui nous paraît très ironique et très simple, pour l'époque, ne l'était pas du tout. Pas du tout de faire un beau livre sur un sujet comme ça, avec des photos qui racontaient une histoire, parce que la photo amène, pour ceux qui en doutent, une véracité, pour ceux qui ont oublié l'émotion de l'émotion, et pour ceux qui pensent que cette histoire n'a pas de trace de la mémoire. Je rappelle Pierre Nora, qui n'a jamais écrit un seul mot sur la mémoire des Noirs de France dans les lieux de mémoire. Bien sûr, notre pays n'a aucune mémoire des Noirs, puisque les Noirs n'ont rien fait, donc pourquoi est-ce qu'ils auraient laissé une histoire et une mémoire ? Je renvoie bien sûr au lieu de mémoire de Pierre Nora pour arriver à comprendre comment on fabrique une histoire sans mémoire. Alors, ce matin, Armand Gauze m'a volé un tout petit peu une ironie de ma pirouette, mais je trouve ça très bien parce qu'il a mis le doigt sur cette histoire de Louis-Gustave Binger. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, ce brave Louis-Gustave a donné la Côte d'Ivoire à la France comme un cadeau immense, et tous les Ivoiriens, comme il l'a très bien expliqué, 4 millions d'Ivoiriens se sont donnés à la France comme un tout unique et merveilleux. Et ce brave Louis-Gustave Binger a eu l'honneur d'un ouvrage de Marcel Monnier en 1894. Et c'est pour ça qu'on a appelé notre livre « La France noire », parce que le livre de Monnier s'appelait justement « France noire ». Et que ce livre niait justement que les Noirs soient entrés dans l'histoire. Et l'ironie de notre titre, qui était le même, quelques années plus tard, était d'expliquer qu'ils étaient peut-être au moins rentrés dans l'histoire de France. Et c'était ça qui était intéressant à travers cette pirouette en choisissant ce titre, à la fois provoquant pour certains. Je me rappelle quelques émissions de télévision où rien que le titre, avant même d'ouvrir l'ouvrage, faisait scandale. Ça me rappelle avec Françoise Vergès qu'on avait fait La République coloniale, où certains, rien que le titre, les faisait quasi vomir de savoir ce qu'il pouvait y avoir dedans. Ils ne l'avaient pas lu, mais ils avaient déjà plein de points de vue dessus. Alors là, la France noire, je ne vous en parle pas. Nadine Morano se retourne encore dans sa tombe. Sur quoi elle n'a pas dû la lire. Je suis à peu près tranquille là-dessus, ça m'étonnerait que Nadine Morano se soit arrêtée sur la France noire. Même pas le titre, à mon avis. Je pense qu'elle n'a pas compris, elle a dû croire que c'était une faute de frappe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est d'abord une histoire, alors qu'elle dure depuis 4 siècles, qui est de l'ordre de l'invisible. Et la rendre visible à travers des images était essentielle. D'abord dans un beau livre, avec les meilleurs chercheurs. Car cette histoire est écrite. Les chercheurs avant nous ont fait tout le travail. Il existe depuis 30 ou 40 ans des travaux excellents sur ces présences migratoires, qu'elles viennent des Antilles, de la Réunion, de Guyane, mais aussi les présences des Afro-Américains en France, de tous les pays d'Afrique, de Madagascar, de l'ensemble des îles qui bordent, qui frôlent, qui touchent cet empire colonial, parce que la France n'a pas été qu'un creuset pour ceux de l'empire colonial. Les Haïtiens sont venus en France, mais aussi des populations afro-américaines, cubaines, parce que la France est un pays particulier. Certains disaient que c'était la deuxième nation des Noirs, le deuxième pays des Noirs. C'est le seul pays où on a cette idée un peu folle, le jour de l'ouverture de l'exposition coloniale, de faire jouer un homme noir dans l'équipe nationale de football. Alors on est à un mois de l'ouverture de l'Euro 2016, et je pense qu'il n'y aura aucune commémoration dans cet Euro pour ce joueur qui s'appelait Raoul Diagne, et Raoul Diagne n'était ni plus ni moins que le petit-fils de Blaise Diagne. Cette histoire, elle nous dit quoi ? Elle dit que ce pays, il est particulier. Il est particulier parce que son histoire, à l'aune de ses présences noires, est quasi unique. Dans le sens où elle est quasi unique, c'est que la fois la France, c'est les ténèbres coloniales, c'est les ténèbres des eaux humains, c'est les ténèbres de l'esclavage, mais en même temps, c'est la lumière de l'écriture, c'est la lumière de la liberté. C'est le seul pays où un homme noir et une femme blanche pouvaient boire une bière à Paris en 1921 sur une terrasse. Et cette histoire-là, elle est incroyable parce qu'elle est paradoxale. On ne cherche même pas le sens de ça. Il n'y a pas forcément une logique à ça. C'est une histoire qui est unique. Et il fallait le raconter à travers quelque chose qui était à la fois un livre, mais lui donner aussi une dimension mémoire au sens fort où on l'entend. C'est pour ça que je me moquais de Rocaïa tout à l'heure ou de Pape en disant qu'ils avaient participé après au film, et qui est un film qui est fondamental en trois parties parce qu'il a donné à vivre cette fois-ci sur l'écran pour ceux qui étaient des Noirs de France, mais de manière totalement différente. Il n'y a pas un Noir de France. Il n'y a pas une manière d'être Noir de France, voire même d'être Noir en France. Mais tout ça fait une partie, une histoire commune, et pour autant ce sont mille et une histoires qui petit à petit se racontent. Dans un pays où, je le rappelle parce qu'on l'oublie souvent, certains ont rêvé d'une France sans noir. Il n'a pas fallu attendre Marine Le Pen pour qu'on le pense. Napoléon Bonaparte est le premier à vouloir expulser tous les Noirs de France en étant persuadé que cette présence allait tuer, détruire, entraîner le déclin de la race française. C'est donc une histoire qui, à la fois, est une histoire dure, mais aussi une histoire idéologique. La peur de la mixité sur le sol hexagonal de la France, qui avait des colonies, qui avait un monde esclavagiste, était une histoire qui s'entrecroisait. C'est aussi un monde qui a inventé le sauvage à travers les eaux humains. Et l'homme noir, particulièrement, et la femme noire, étaient présents dans ces espaces. C'est donc pas du tout une histoire neutre quand on parle d'images. Donc parler des images, c'est aussi comprendre pourquoi l'histoire de ce pays se fait en images sur l'homme noir et la femme noire. Il est d'abord regardé à l'aune de sa couleur. C'est d'ailleurs le seul pays, avec Oncle Ben aux États-Unis, qui a choisi un personnage noir pour une publicité majeure. Dans ce pays, il y a trois marques qui nous racontent la France. Il y a le Bibadum Michelin pour la fin des campagnes. Vous avez la vache qui rit, qui vous explique quelque chose d'extraordinaire sur le produit proche de la terre. Et vous avez Banania. Il n'y a pas d'autre pays capable de choisir une icône aussi forte pour nous expliquer justement à la fois ce qui n'est plus. Ce ne sont plus des sauvages, parce que la République ne peut quand même pas appeler des sauvages pour libérer la France. Et face à les Allemands, il fallait trouver mieux. Et en même temps, ils sont encore les grands-enfants de la République. C'est le seul pays au monde capable d'inventer une image pareille qui, encore, est aujourd'hui dans nos petits déjeuners le matin. Et elle a été créée en plein Première Guerre mondiale. C'est donc cette histoire en images qu'il fallait raconter. C'est à la fois aussi l'histoire d'une culture incroyable. Je suis toujours provoquant en disant que la négritude ne serait peut-être pas née si quelques Antillais, quelques Guyanais et quelques Africains ne s'étaient pas croisés par hasard à Paris. C'est à Paris que ça naît. Jamais peut-être la culture noire avec le choc que provoque Joséphine Baker n'aurait eu lieu si Paris n'avait pas été Paris. Jamais le cinéma noir n'aurait été ce qu'il a été si Amine Belghilia n'aurait pas joué ses 114 films en France. Amine Belghilia n'a pas commencé dans les années 90 avec Black Pic Mac, mais sur la scène de l'Odéon dans les années 20. C'est le seul pays au monde qui permet à un cycliste, Major Taylor, de devenir champion du monde de vélo. C'est le seul pays qui permet à un boxeur comme Baking Siki de mettre Carpentier à terre au 6e round, malgré la volonté de la mafia marseillaise, parce qu'il va devenir champion du monde. Il n'y en a pas d'autre. Et en même temps, cette histoire, ce paradoxe, il est incroyable parce que nous ne la connaissons pas. Et ceux qui vivent aujourd'hui dans notre société ne la connaissent pas. Je moquais Nadine Morano tout à l'heure qui ne connaissait pas cette histoire, ça j'en suis persuadé. Je moque beaucoup moins des gens comme Éric Zemmour qui ne veulent pas entendre parler de cette histoire. Et ces néo-réactionnaires qui aujourd'hui rêveraient que cette France reste blanche. Et pourquoi ça leur fait peur ? Tout simplement parce qu'ils regardent nos rues, le métro, nos quartiers, nos télés, nos ministres. Et ils découvrent que cette France, tout simplement, commence à être au regard, à l'aune de son histoire. C'est bien ça qui fait peur pour ceux qui dénoncent, qui stigmatisent. Parce que d'abord, ils ne connaissent pas cette histoire, ou du moins, quand ils la connaissent, ils en ont peur. Car l'histoire, à ce niveau-là, elle est révolutionnaire. Elle est révolutionnaire parce que la meilleure manière d'expliquer que la France n'est pas blanche, c'est pas de le dire, c'est de le prouver, c'est de le raconter, c'est de le montrer, c'est de le rabâcher. Et je peux vous dire que depuis quelques années, nous rabâchons largement cette question. Et c'est essentiel parce que c'est beaucoup plus complexe que l'on peut le croire. Les gens ne veulent pas simplement voir parce qu'ils ne savent pas. Il ne veut pas le voir parce que cette histoire, ils en ont peur. Ils ont peur pour eux-mêmes, peut-être. Ils ont peur pour leur identité. Nous sommes dans un temps, et si on vient d'écrire un livre qui s'appelle « Vers la guerre des identités », dans lequel, avec Dominique, justement, vous parlez, Dominique Thomas, de qu'est-ce qu'être noir aujourd'hui, la question noire en France, c'est que ces questions sont au cœur des enjeux identitaires du présent. Mais nous ne sommes, en fin de compte, que les héritiers d'une longue histoire. Nous sommes dans ce que certains expliquent ou appellent les éclaboussures impériales. Nous vivons aujourd'hui tout ce que nos aînés ont fabriqué, tout ce que nos aînés, d'une certaine manière, ont semé. Et ce n'est pas toujours facile à porter. Nous sommes dans un pays où, de toute évidence, nos stylos ne suffiront pas à changer les imaginaires. Ce n'ont pas non plus les films que Rocaïa, par exemple, peut faire comme moi, qui permettront de tout refaire, de tout changer, de modifier les imaginaires. Il n'y a aucun lieu d'histoire dans ce pays où, en emmenant nos enfants, on peut raconter cette histoire. Aucun. Parce que cette histoire, dans le pays où il y a 12 744 musées, je le rappelle en comptant les musées d'entreprise, qui sont aussi des musées, où il y a 27 musées du sabot, je la raconte depuis 20 ans cette histoire, et je continuerai à la raconter, jusqu'au jour où un ministre sera éclairé par la lumière du ciel, et qui comprendra que c'est un peu paradoxal, dans ce pays au musée où les touristes, 80 millions de touristes rentrent dans nos musées tous les ans, il n'y a aucun musée d'histoire coloniale, aucun musée qui raconte cette diversité, aucun musée qui raconte cette France noire. Si vous voulez raconter à vos enfants, il va falloir aller prendre des livres, venir voir des petites expos comme celle qui est ici, et je remercie Alain de l'avoir accueillie ici. Elle fait depuis 4 ans maintenant le tour de France, le tour des Outre-mer, elle va en Afrique, elle va partout. Il faut gratter une histoire que personne ne veut entendre dans nos élites. Je pense que ni Alain, ni Rocaïa, ni Pape, aucun ici, ni François, ne verront certainement un jour un président de la République couper un ruban de ce type de musée. Nous serons en retraite, messieurs, dames. Nous serons certainement en retraite quand ça arrivera. Nous le verrons peut-être de notre retraite lointaine, je ne sais pas où nous serons tous en retraite. On s'appellera à ce moment-là, on ne sera plus au SMS, on appellera sur des machines tout à fait étranges, parce que ça sera dans très 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 longtemps. Et un président de la République inaugurera un musée en disant « Ceci est un musée d'histoire de France ». Pourquoi ? Parce que c'est ça la difficulté que nous ont quelque part légué ce passé colonial. Il ne s'est pas passé que là-bas. Ce n'est pas que là-bas le passé colonial, c'était ici. Et cette difficulté de penser que nous sommes... Par les hasards de l'histoire, personne n'a jamais imaginé que notre société serait métissée. Personne n'a imaginé au XIXe siècle que ces migrations auraient lieu. Personne n'a imaginé un jour que Alain Mabankou serait au Collège de France. Ça leur aurait fait peur. Personne n'a imaginé tout ça. Personne. Donc personne n'a imaginé qu'il fallait raconter cette histoire à nos enfants et leur expliquer pourquoi Alain Mabankou, qui traverse l'Atlantique et qui avant a un peu voyagé pour venir jusqu'ici, va raconter la France. Parce qu'il nous parle de la France. Parce que dans France noire, il y a aussi France. Il parle de ce pays, il parle de son histoire, de sa culture, des fois de ses problèmes identitaires. Comme tous les autres pays, rassurons-nous, ce n'est pas mieux au Japon quand on parle d'histoire coloniale, hein. Ce n'est pas mieux en Angleterre ou en Allemagne de parler de ces questions. Mais dans ce pays, et là j'oublie les autres, on a un vrai problème à raconter cette histoire. Et vous voyez que l'histoire est révolutionnaire. Aucun président de la République, aucun ministre n'imagine même aujourd'hui lancer un tel projet dans son quinquennat, septennat et tout ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce que parler de ce sujet-là, c'est parler peut-être enfin de la France qui ressemble à la France aujourd'hui, tout simplement héritière d'une histoire qu'aucun ici n'a faite, dont aucun ici n'a bâti le moindre moment, et pourtant, on nous en sommes tous les héritiers. C'est ça qui est peut-être le plus difficile, et c'est pour ça que l'histoire est révolutionnaire. Et c'est pour ça que faire un beau livre sur la France noire, c'est révolutionnaire, parce que ça permet de faire ce qu'un jour un jeune garçon qui devait avoir 25 ans, dans un festival que tu connais bien, Alain, qui s'appelle Étonnant Voyageur, est venu me voir en me disant « Est-ce que vous pouvez me faire une dédicace pour ma belle-mère ?» Ça va énormément simplifier mes repas du dimanche. Merci à vous.